RVA.
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 Cette semaine, un sujet pas comme les autres, nous allons vous parler de la maladie de Charcot, une maladie dégénérative qui touche environ 800 nouvelles personnes chaque année en France. Pour témoigner, nous avons rencontré Tony Rowe, atteint de cette maladie depuis plus d'un an. Il nous racontera sa vie au quotidien, les possibilités de traitement et d'où il tire ce courage de garder espoir. Il sera accompagné de sa femme Annick, présidente de l'association Eyes for Life. Elle nous témoignera de sa vie d'accompagnante et nous parlera également de l'association créée exclusivement pour aider son mari du mieux possible face à cette maladie dévastatrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la maladie de Charcot, une maladie malheureusement assez méconnue en France ?
La maladie de Charcot, c'est une dégénérescence des neurones moteurs. C'est le fait que, au bout d'un moment, les muscles s'atrophient. On a une perte en plus musculaire. Ça va aller jusqu'à des soucis de respiratoires. C'est une maladie qui est 100% mortelle puisqu'il n'y a pas de remède pour l'instant dans le monde entier. Normalement, en moyenne, entre 3 et 5 ans, on est décédé et sinon avant, on devient complètement handicapé.
Comment cette maladie vous a-t-elle été diagnostiquée pour la toute première fois ?
Je faisais pas mal de sport et il s'est trouvé que en allant courir plusieurs fois, je suis tombé. Voilà, j'avais mes pieds qui commençaient à accrocher et après j'ai eu des difficultés à la marche, donc je me suis renseigné et je suis allé au CHU de Clermont-Ferrand au service de neurologie pour pouvoir faire des tests et j'ai passé 3 jours de tests au CHU et bien j'ai été diagnostiqué le 18 novembre dernier par rapport à la maladie. Au début, j'ai cru que c'était de la fatigue, j'ai cru que c'était suite à des j'ai eu des accidents avec des fractures, donc je me suis dit que ça venait peut-être de là, ou voilà, parce que en fait, on sait pas. Maintenant, c'est vrai que la grosse difficulté actuelle, là, tout de suite, c'est plutôt la marche.
Principalement, quels sont les facteurs d'apparition de cette maladie ?
Ça peut être génétique. Il faut savoir qu'il y a à peu près 6% qui sont reconnus de forme génétique pour l'instant, seulement. Mais c'est aussi environnemental. Par exemple, ça peut venir de l'alimentation, ça peut venir de choses qu'on respire, ça peut venir de plein de choses, surtout qu'on ne sait pas.
Quelles sont les plus grosses appréhensions que vous avez pu ressentir concernant la vie au quotidien avec cette maladie ?
Je pense que la plus grosse appréhension, c'est de se retrouver complètement handicapé. La plus grosse appréhension, c'est celle-là. Au-delà de ça, la plus grande peur, parce que c'est quand même une peur, c'est le fait quand on arrive au niveau de la déglutition et de la respiration, quand on arrive à ce niveau-là, où là, on a des grosses difficultés à respirer et à pouvoir avaler, et on se retrouve généralement avec une trachéotomie pour pouvoir respirer après que de façon mécanique. On ne peut plus respirer normalement tout seul. Ce qui est très particulier de cette maladie, c'est qu'on est tout le temps conscient.
J'imagine que parfois vous avez pu être découragé. Qu'est-ce qui vous permet de garder espoir face à cette maladie qui, je le rappelle, est incurable ?
J'ai toujours eu un tempérament positif, donc déjà je m'accroche à ça. Et après, c'est le fait d'être bien entouré, d'avoir ma famille autour de moi et de vouloir aller au plus loin pour pouvoir les accompagner et d'être là, pouvoir évoluer mes enfants, être avec eux, pouvoir profiter de la vieillesse avec ma femme. C'est ce qu'on s'est toujours dit, de pouvoir vieillir ensemble. Et moi, j'ai envie d'être là, donc je vais mettre les choses en place pour dire d'y arriver.
Est-ce que c'est une maladie qui peut toucher tout le monde ?
Alors, la maladie de Charcot, il y a un gros pourcentage de personnes anciens sportifs, quinquagénaires anciens sportifs. Ça, c'est une chose, voilà. Mais depuis quelques années maintenant, il commence à y avoir des personnes assez jeunes dans une vingtaine d'années, dont les femmes aussi, également. Donc ça commence à toucher de plus en plus de personnes, en fait.
Justement, où en est-on de la recherche en France sur cette maladie ?
Pour l'instant, il y a des protocoles expérimentaux qui sont mis en place dans certains CHU en France. Protocoles expérimentaux où il faut faire partie d'un groupe de personnes qui se ressemblent au niveau de la maladie, au niveau de l'âge, du diagnostic, au niveau de plein de choses. Où il y a, par exemple, une dizaine de personnes qui rentrent dans le traitement expérimental. Donc, 5 personnes avec le médicament, 5 personnes avec un placebo. Et du coup, il y a une étude qui est faite là-dessus. Mais tous ces traitements expérimentaux, c'est pour arriver à ralentir la maladie ou éventuellement pouvoir un peu la stopper. Mais surtout pas la guérir, pour l'instant, ils n'ont rien trouvé.
Pourquoi ne rentrez-vous pas dans les protocoles expérimentaux ?
C'est parce que moi, j'ai pas de forme génétique, principalement, et en plus, par rapport à mon premier symptôme, je suis à plus de 18 mois, par rapport au diagnostic.
Quels sont les principaux symptômes de la maladie ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Il y a une chose par rapport à la maladie qui est là fréquemment, c'est les crampes. Après, c'est une grosse sensation de fatigue. Après, perte musculaire, perte de force. C'est tressautement des muscles quotidien. Et comme je suis plus faible au niveau musculaire, ça déclenche une fatigue, je vais pas dire constante, mais quasiment.
Qu'en est-il des possibilités de traitement vers l'étranger ?
Un des pays vers lequel on se tourne et on regarde attentivement, c'est notamment les États-Unis. Là, ils sont sur des injections de cellules souches. Pourquoi les cellules souches ? Parce que les cellules souches, c'est ce qui permet de recréer des neurones et notamment des motoneurones, par exemple.
Comment la vie d'une aidante s'articule-t-elle autour de la vie d'une personne atteinte de la maladie de Charcot ?
En fait, on est en train de se regrouper pour anticiper la prise en charge de Tony, tout simplement. Et la création de l'asso, ça a été aussi le levier pour nous, une lueur d'espoir, quelque chose à se raccrocher aussi, de dire qu'ensemble, en fait, on sera plus fort parce que je peux pas être présente pour lui de plus en plus. Professionnellement, ça me demande de travailler moins et l'équilibre financier ne tient plus la route. Donc ça, c'est tout un aspect qu'on ne mesure pas non plus.
Comment votre famille réussit-elle à passer cette épreuve ? Ce n'est pas trop dur au quotidien ?
La difficulté de se projeter. Notre dernier fils, donc il y a 17 ans, se demande est-ce que papa sera là à 20 ans, est-ce que papa sera là pour mes 18 ans. Enfin voilà, il y a des questions comme ça qui sont soulevées, qui font partie de notre quotidien. Au début, c'est des larmes, forcément. L'humain a un potentiel énorme et est capable d'aller chercher des ressources énormes parce que finalement, on se rend compte que ces questions-là, elles deviennent quotidiennes. Quand les gens autour de nous nous les posent, en fait, maintenant, on ne pleure même plus. C'est pas qu'on est insensible, c'est qu'au contraire, on s'est habitué, en fait, on se prépare, tout en gardant de l'espoir dans tout ce qu'on fait, dans cette approche thérapeutique. D'ailleurs, on y lit aussi l'hygiène de vie, enfin, voilà, l'alimentation, il y a plein de changements qu'on met en place pour Tony, hein. Donc, les enfants sont happés par ça, parce qu'ils sont jeunes, 17 ans, 20 ans, 22 ans. Il y a Tony et la maladie, certes, mais en même temps, il faut veiller par rapport aux enfants de voir qu'ils ne se perdent pas.
Pourquoi avoir décidé de créer l'association Eyes for Life ?
Face au diagnostic et puis voyant que Tony ne rentrait pas dans les protocoles expérimentaux français, on a créé l'association derrière ça. Elle a été officiellement créée le 9 mai. On lui a fait faire des analyses de tests à l'effort, des analyses donc là microbiote, c'est en cours, et puis prise de sang de métaux lourds, puisqu'on sait qu'il y a certaines SLA, donc la maladie de Charcot, qui sont diagnostiquées avec des défaillances au niveau du microbiote, au niveau des métaux lourds. Donc on a essayé d'anticiper toute cette partie-là. Et l'association sert à ça aussi parce que du coup ça coûte très cher. En fait, ce ne sont pas des analyses qui sont prises en charge.
En quoi les bains froids aident-ils Tony à supporter du mieux possible les symptômes de la maladie ?
J'ai décidé de battre le record du monde d'immersion dans le froid pour créer des événements autour de ça et récolter des dons afin d'aider Tony pour avoir le matériel, les thérapies les plus appropriées qui le soulagent, qui l'aident et puis pour profiter de la vie au mieux des mois ou peut-être des quelques années qu'il attend, on ne sait pas. Et on va additionner en fait le temps et reverser un montant en fonction du temps passé dans le froid. Et en même temps, cette approche du froid fait que on sait scientifiquement que le froid en fait diminue l'inflammation, renforce le système immunitaire. Et puis, Tony adore l'eau, donc cette approche par l'eau le soulage énormément. Comme cette partie de paralysie sur le bas du corps est assez pesante pour lui parce qu'il se sent lourd pour marcher, c'est difficile, ça demande un gros effort. Parce que maintenant, c'est pas ses pieds qui se lèvent, il marche grâce à ses genoux. Il lève les genoux pour faire fonctionner ses pieds. Donc ça demande un gros effort. Simplement, après coup, ça le soulage en fait, ça lui fait du bien. Et on a espoir, c'est pour ça qu'on s'accroche vraiment à ça, que ça puisse ralentir les symptômes de Tony ou faire stagner la maladie. Les neurologues nous disent que ben, on peut tout tenter, il n'y a rien à perdre. Donc nous, en fait, comme c'est pas pris en charge et que c'est pas un protocole expérimental médical, ben, on a lancé ça de notre plein gré et on s'y tient. Et là, on lance un programme vraiment au quotidien pour le froid. Et pour ça, on a besoin de matériel. Pour le grand froid, là, par exemple, à 1,6 degré dans le congélateur, après, c'est un bac de froid. C'est le congélateur, faut mettre un liner, il y a des fuites. Enfin, voilà, c'est pas pratique. L'idée d'un bac de froid qui va entre 0 et 4 degrés, derrière, il faut un sauna automatiquement. On peut pas prendre de douche chaude, pas de jacuzzi non plus, parce que ce serait un arrêt cardiaque assuré. La circulation, en fait, se réouvre et le sang froid dans les membres monte au cœur et donc c'est un arrêt cardiaque. Il faut forcément un sauna.
Si vous souhaitez soutenir Tony dans l'acquisition de nouveaux matériels pour lutter contre la maladie, comme par exemple un sauna sur mesure, un bain froid ou encore un véhicule médicalisé, vous pouvez vous rendre sur le site de l'association www.helloasso.com ou envoyer tout autre don au 95 rue Denonant, 63 100 Clermont-Ferrand.